Bien, bonjour. Merci d'être là en ce début d'après-midi de samedi et d'être venu jusqu'aux Amandiers pour entendre parler de démocratie, ou en tout cas de ce qu'il en reste, puisque le thème de notre cycle de débat, c'est la fin de la démocratie. Il reste un point d'interrogation, donc il nous reste des raisons d'espérer. Et c'est d'ailleurs l'une des questions que nous aborderons avec la session d'aujourd'hui consacrée aux héros. Alors, avant même de dire quoi que ce soit, sur cette notion même de héros, je vous propose de vous présenter trois extraits de Coriolan, et après, je procéderai à une introduction en bonne et due forme sur l'esprit général de ce cycle de rencontres, et sur nos invités, et sur l'organisation de l'après-midi, et peut-être également que je ferai un mot d'introduction sur la problématique de la démocratie. Mais avant même, pour nous mettre dans le bain, je sais que certains d'entre vous ont vu la pièce et d'autres pas. Autour de cette question du héros, je vous propose trois moments, trois extraits du spectacle avec une représentation du héros sous trois visages. Le premier visage du héros, c'est le héros militaire, le héros guerrier et tel qu'en lui-même, qui est seul contre tous qui seul va réussir à prendre une ville ennemie qui est donné plutôt vainqueur. Donc, ce héros, c'est évidemment Caius Marcius, général romain, patricien arrogant, et nous allons le voir ici, en pleine action, face à l'ennemi volsque. On va projeter le premier extrait.
Je parie qu'ils sont aux prises. Mon cheval contre le vôtre que non.
C'est dit.
D'accord.
Bah, notre général est-il aux prises avec l'ennemi?
Ils sont en présence, mais ne se sont encore rien dit.
Voilà, votre beau cheval est à moi.
Je vous le rachèterai.
Non, je ne veux ni le vendre ni le donner. Mais vous le prêtez 50 ans volontiers. Faites les sommations à la ville.
À quelle distance est leur armée?
À moins d'un mille et demi.
Alors nous les entendrons sonner l'alarme et nous entendrons masse. Je t'en prie, rends-nous vifs à l'ouvrage, que nos épées fumantes, nous puissions marcher au secours de nos alliés en campagne. Fais sonner ta trompette.
Philippe, Philippe, est-il dans mon mur?
Non. Ni personne qui vous redoute plus que lui, c'est-à-dire pas du tout. Écoutez, nos tambours rassemblent notre jeunesse. Nous briserons nos murs. Plutôt que de nous laisser parquer nos portes qui semblent fermées, ne sont barricadées qu'avec des roseaux, elles s'ouvriront d'elles-mêmes. Vous entendez là-bas? C'est Ophidius! Écoutez comme il besogne dans votre armée délitée!
Les sauvages, leur tumulte sont notre exemple! Voilà, des échelles! Ils ne nous craignent pas, mais sortent de leur cité!
Mettez vos boucliers devant vos cœurs et que vos cœurs dans le combat soient plus résistants que des boucliers!
En avant, courage Ophidius! Ils nous dédaignent plus que nous l'aurions cru, j'en suis de rage! Allez, mes amis! Le premier qui recule, je le prends pour un volsque! Et il sentira le tranchant de ma lame!
Du midi fonde sur vous, opprobre de Rome, troupeau de... Que les pestes et les pustules vous emplâtrent!
On est horreur de vous avant de vous voir! Affectez-vous l'un l'autre à 1000 sous le vent! Âme droit! La forme humaine! Comment avez-vous fui des esclaves que des sages suffiraient à roser?
Ah, Pluton et enfer! Tous blessés par derrière, le dos rouge, la face pleine de fuite et de peur,
fébrile!
Préparez! Revenez à la charge ou par les feux du ciel, je délaisse l'ennemi pour faire mes guerres contre vous!
Prenez garde!
Si vous tenez ferme, nous les devancerons chez leurs femmes, comme eux nous ont poursuivis jusque dans nos retranchements! Suivez!
Ah! Maintenant, les portes sont ouvertes! Secondez-moi bien! C'est pour les assaillants que la fortune les ouvre toutes grandes. Non, pour les fuyards. Regardez! Faites comme moi.
C'est de la folie. Oh, très peu pour moi.
Pour moi?
Voyez, ils l'ont enfermé.
Dans la marmite. Il est cuit.
Qu'est devenu Marcius?
Massacré, général, c'est certain!
courant sur les talons des fuyards. Avec eux, il entre. Eux, d'un seul coup, claquent leur porte. Le voici seul à tenir tête à toute la cité.
Oh, noble compagnon! Sensible au coup, mais plus intrépide que ton insensible épée, quand elle plie, tu restes droit. Tu es perdu, Marcius. Un rubis de ta taille ne serait pas un joyau aussi riche que toi. Tu étais un soldat, selon le vœu de Caton, seulement farouche et terrible dans tes assauts, mais capable par ton regard sévère et par le percutant tonnerre de ta voix de faire frissonner tes ennemis, comme si le monde te prit de fièvre et tremblait.
Regardez, général! Oh, c'est Marcius! Qu'on le délivrait! Ou partageons son sort!
Drachme fêlée, coussin, cuillère de plomb, rapière d'un sou, pour point que le bourreau ensevelirait avec la victime, cette ville racaille rafle tout avant la fin du combat. Quelle crêpe! Écoutez, quel tumulte fait notre général! Là-bas, cet homme, la haine de mon âme, Ophidius, taraude les Romains, courons vers lui! Bien! Vaillant Titus, prenez des effectifs suffisants pour tenir la cité pendant qu'avec ceux qui en ont le courage, j'irai en toute hâte secourir Comminus.
Un peu, seigneur, tu saignes. Ton effort a été trop violent pour un deuxième assaut.
Monsieur, pas de louange. Mon travail ne m'a pas encore échauffé. Le sang que je verse n'est plus un cordial qu'un danger.
Devant Phidius, ainsi je veux paraître et me battre.
Gentil homme intrépide, que la prospérité soit ton page.
Qu'elle soit ton amie comme elle l'est de ce qu'elle porte au pinacle.
Adieu.
Héroïque Marcius,
va. Fais sonner ta trompette sur la place du marché. Convoque-y tous les dignitaires de la ville. Là, ils connaîtront nos intentions. Partons.
Premier extrait qui montre ici le héros tel qu'en lui-même, c'est-à-dire capable à lui seul d'écraser une ville entière, de la conquérir, contre l'avis même de ses hommes qui, comme le dit l'un des soldats, pense que c'est de la folie. Et donc qui va au-delà de la folie et qui accomplit l'impossible, semble-t-il, à main nue. Premier temps de cette forme d'héroïsme, nous allons voir maintenant un deuxième temps assez canonique, qui est la forme du duel, où un héros affronte non plus une troupe, une armée, mais un autre héros, l'héros du camp d'en face, en l'occurrence le général Ophidius.
Je ne me battrai qu'avec toi, car je te hais pire qu'un parjure.
Ma haine vaut la tienne. L'Afrique n'a pas de serpent que j'aborde, plus que ta gloire que je jalouse. Assure ton pied.
Que le premier qui recule meurt esclave de l'autre et que les dieux le damnent après.
Si je fuis, Marcius, course-moi comme un lièvre.
Il y a 3 heures, Tullus, seul je me battais dans vos murs de Coriole. J'y ai fait l'ouvrage qui m'a plu. Ce n'est pas de mon sang que tu me vois farder. Pour ta vengeance, bande tes forces, porte-les au plus haut.
Serais-tu cet Hector, ce fléau dont ta lignée se targue d'être issu, tu ne m'échapperais pas.
je devais te redire ton ouvrage de ce jour, tu ne croirais pas tes actes. Mais j'en ferai le récit, là où les sénateurs mêleront sourires et larmes, où d'illustres patriciens écoutant en haussant les épaules finiront par t'admirer, où les dames saisies d'effroi, frissonnantes de joie, voudront en entendre davantage, où les sombres tribuns, qui comme les fébriles plébéens haïssent les honneurs, diront à contre-cœur, nous remercions les dieux que Rome est un tel soldat. Tu es venu quand même à notre festin, pour toi simple collation, toi qui avais déjà amplement dîné.
Général, voici le coursier, nous ne sommes que le caparaçon. Si tu avais vu...
De grâce, assez. Ma mère qui a bien le droit d'exalter son sang, quand elle me loue, m'afflige. J'ai fait, comme vous, ce que j'ai pu inspirer, comme vous, par l'amour de mon pays. Quiconque n'a fait que mettre en œuvre sa résolution a surpassé mes actes.
Vous ne serez pas le tombeau de vos mérites. Rome doit connaître la valeur des siens, Marie. Ce serait un recel pire qu'un vol, oui. Une calomnie de cacher vos actes et de taire ce qui, exalté jusqu'aux cimes de l'éloge, paraîtrait même trop modeste. Aussi, je vous en supplie, en témoignage de ce que vous êtes, non pour récompenser ce que vous avez fait, devant notre armée, écoutez-moi.
J'ai sur le corps quelques blessures qui m'accusent de s'entendre rappeler.
Si on me mettait de le faire, elle pourrait bien s'envenimer contre l'ingratitude et de guérir qu'avec votre mort. De tous les chevaux nombreux et superbes que nous avons pris, de tous les trésors acquis sur le champ de bataille et dans la cité, nous vous offrons le 10e, à prélever avant distribution générale, à votre guise.
Je vous remercie, général. Mais je ne peux faire consentir mon cœur à recevoir ce pot de vin pour payer mon épée. Je le refuse et m'en tiens à la part commune qui revient à tous ceux qui ont combattu.
Puissent ces instruments que vous profanez ne plus jamais retentir. Si tambours et trompettes sur le champ de bataille se montrent des flatteurs, que les cours et les cités s'adonnent entièrement à la grimace flagormeuse. Si l'acier devient souple comme la soie du parasite, qu'on fasse du parasite le fer de lance de la guerre. Un pauvre air, ce que bien d'autres ont fait sans qu'on le sache, vous m'acclamez de vociférations hyperboliques, comme si j'aimais voir le peu que je suis engraissé de louanges et pissé de mensonges.
Vous êtes trop modeste, plus cruel pour votre renommée que reconnaissant envers nous qui vous peignons en vrai. Avec votre permission, si vous vous enflammez contre vous-même, nous vous mettrons des menottes, comme à celui qui médite sa perte pour raisonner sans danger avec vous. Par conséquent, qu'il soit connu de nous et du monde entier que Caius Marcius porte la palme de cette guerre, en témoignage de quoi mon noble coursier, connu dans notre camp, je le lui donne avec tous ses harnachements. Désormais, pour ce qu'il a fait devant Coriol, appelons-le aux applaudissements et clameurs de l'armée. Marcius Caius Coriolum. Caius Marcius Coriolum. Caius Marcius Coriolum. Portez à jamais ce surnom, noblement.
Je vais aller me laver. Et quand mon visage sera propre, vous verrez si je rougis ou non.
Voilà. héros en combat singulier qui surpasse son ennemi, et d'ailleurs il l'a surpassé de nombreuses fois, Aufidus, donc il lui est essentiellement supérieur, et en même temps héros malgré lui, puisque confronté à son triomphe, à la célébration de son acte, il se déclare trop modeste et il réclame la part commune, il réclame le même sort que tout le monde et considère être logé à la même enseigne. Donc un héros paradoxal qui commet des exploits et en même temps ne supporte pas d'être considéré comme extraordinaire. C'est l'une des problématiques fondamentales de Coriolan. On voit qu'il y a une faille dans ce héros qui s'avérera héros militaire incapable de devenir chef politique de Rome. Troisième temps, qui est la conclusion logique de cette faille-là, de ce refus de la louange d'une part et en même temps d'une haine sociale, d'un refus de jouer la comédie politique, c'est le bannissement du héros que nous allons maintenant voir. Troisième et dernier extrait.
Vite, vite.
Bien. Allons quitter le Sénat. Allons.
Pardon.
Allons quitter le Sénat.
Bien.
Voilà. Viendra-t-il ?
Il vient.
Qui l'accompagne ?
Le vieux Ménénius et ses sénateurs qui l'ont toujours soutenu.
Avez-vous la liste des voix dont nous nous sommes assurés ?
Elle est prête.
Vous les avez regroupées par tribu ?
Oui.
Rassemblez tout de suite le peuple, et quand ils m'entendront dire qu'il en soit ainsi par le droit et l'autorité du peuple, qu'il s'agisse de mort, d'amende ou de bannissement, si je dis amende, qu'il crie amende. Si je dis amende, qu'il crie amende. En insistant sur l'ancienne prérogative et le pouvoir que nous donne la justesse de notre cause.
Je vais les en informer.
Et une fois qu'ils auront commencé à crier, qu'ils n'arrêtent pas, mais avec de confuses clameurs, ils exigent l'exécution immédiate de la sentence que nous prononcerons.
Très bien. Rendez-les intransigeants et prêts à suivre les recommandations que nous leur donnerons le cas échéant.
Allez vous y employer. Mettez-le tout de suite en colère. J'ai toujours été habitué à conquérir et avoir son content d'invectif. Il faut échauffer. Impossible de le brider et de le modérer. Il dit ce qu'il a dans le cœur, et là est notre espoir de lui briser la nuque.
Calmement, je vous en conjure.
Oui. Comme le garçon d'auberge qui, pour une petite pièce, se laisse 100 fois traiter de crapule. Que les dieux vénérés veillent au salut de Rome. Qu'ils mettent des hommes de bien sur les sièges de la justice et plantent l'amour parmi nous. Emplissant nos vastes temples de processions de paix et non nos rues de spectacles de guerre.
Amen, amen,
noble feu. Noble.
Silence, silence, écoutez, votre rival.
Faut d'abord écouter mes paroles.
Bien,
parle.
Silence.
Ces accusations contre moi sont-elles les dernières? Tout sera-t-il réglé ici?
Je vous demande si vous vous soumettez aux voix du peuple. Si vous reconnaissez ses représentants et si vous consentez à subir la peine légale pour les fautes qui seront retenues contre vous.
J'y consens.
Ah, vous voyez, citoyen, il dit qu'il y consent. Considérez les souffrances et les services qu'il a rendus à la guerre. Et songez aux blessures que porte son corps comme des tombes dans un cimetière.
Bon, assez.
Que les... Comment se fait-il que, élu consul à l'unanimité de vos voix, je sois dans l'heure déshonoré et me voir révoqué?
C'est à vous de nous répondre.
Non, non,
dites-le, vous. Nous vous accusons d'avoir intrigué pour abolir à Rome toutes les magistratures instituées et d'avoir tenté de vous investir d'un pouvoir tyrannique. En cela, vous êtes traître envers le peuple.
Non, non, avec modération, votre promesse.
Les feux du bas-enfer engloutissent le peuple. Tu m'appelles traître, injurieux tribun. Même si dans tes yeux siégeaient 20 000 morts et 2 fois autant sur ta langue menteuse, je te dirai que tu mens d'une voix aussi libre que quand je prie les dieux.
Peuple, entends-tu cela? Mais inutile d'ajouter de nouveaux griefs à sa charge.
Vous l'avez vu. Vous l'avez entendu, il a frappé vos représentants. Il vous a insulté, opposant sa violence à la loi. Et
défiant ici même ceux dont le pouvoir suprême a le devoir de le juger. Cela seul, ce crime de nature capitale mérite la mort la plus sévère.
Mais comme il a bien servi Rome.
De quel droit parlez-vous de service?
Je parle de ce que je sais.
Vous?
Ah, est-ce pas la promesse que vous avez faite à votre mère?
Sachez, je vous
prie. Je ne veux plus rien savoir.
Attendu qu'à plusieurs reprises, et conformément à sa nature, il a témoigné sa haine envers le peuple. Rechercher les moyens de lui arracher son pouvoir, à l'instant même, enfin, lever une main hostile, non seulement en présence de la justice redoutée, mais contre les ministres qui la rendent. Au nom du peuple et en vertu de nos pouvoirs, nous, tribuns, dès cet instant, le bannissons de notre cité sous peine d'être précipité du haut de la roche tarpéienne. Plus jamais il ne franchira les portes de Rome. Au nom du peuple, je dis qu'il en soit ainsi.
Qu'il parte,
il est banni.
Oh, écoutez, messieurs, mes amis du peuple. La
sentence est tombée, nous n'écoutons plus rien.
Laissez-moi parler.
Consul, jusqu'à ce jour, je peux montrer à Rome les marques que ses ennemis ont laissées sur mon corps. J'aime le bien de mon pays d'un respect plus tendre, plus sacré, plus profond que ma propre vie, que l'honneur de ma femme chérie, que le fruit de ses entrailles et le trésor de mes reins. Aussi, si je vous dis que...
Vous voulez en venir?
Dites-moi!
Il n'y a plus rien à dire! Sinon qu'il est banni comme ennemi du peuple et de son pays! Qu'il en soit ainsi!
Qu'il en soit ainsi!
De roquets dont j'exècre la laine comme les effluves des marais croupis, dont j'estime l'amour comme les carcasses des morts sans sépulture qui infectent mon air. C'est moi qui vous bannis. Restez ici avec vos peurs, que la moindre rumeur fasse trembler vos cœurs, que vos ennemis du vent de leur panache soufflent sur vous le désespoir. Gardez toujours le pouvoir de bannir vos défenseurs jusqu'à ce qu'à la fin, votre ignorance, qui ne comprend que ce qu'elle éprouve, n'épargnant que vous-même, ennemi de vous-même, vous livre, captif soumis à quelque nation qui vous aura vaincu sans coup férir. Méprisant la cité à cause de vous, je lui tourne le dos. Il y a un monde ailleurs.
L'ennemi du peuple est parti. Il est parti.
Accompagnez-le jusqu'aux portes et poursuivez-le de votre mépris comme il vous a poursuivi du sien. Infligez-lui des tourments mérités.
Venez, suivons-le jusqu'aux portes. Venez.
Dieu protège le noble tribun. Venez. La bête au mille têtes me chasse à coups de corde éternelle. Où est votre ancien courage?
Au ciel!
Je t'en prie, femme.
Que la peste rouge s'abatte sur tous les commerces de Rome et que périssent tous les métiers.
Allons. On m'aimera quand on ne m'aura plus.
Voilà, on m'aimera quand on ne m'aura plus. Le héros bannit la cité en un renversement qui rappelle le mot de Brecht lorsque, en juin 1953, après la mort de Staline, le peuple de Berlin se soulève, le gouvernement réprime ce soulèvement, et Brecht a ce mot, le gouvernement devrait dissoudre le peuple. Donc, effectivement, on a ici un renversement, le héros se plaçant au-dessus de la masse, méprisant le peuple, accusé de vouloir devenir un tyran et donc de renverser la République romaine, il est banni et, ce faisant, il va devenir de défenseur de Rome son pire ennemi, celui qui va menacer de détruire la cité qu'il a vue naître. Alors, on va, à partir de ces moments, réfléchir à la notion même de héros, et notamment du héros en contexte de démocratie, à l'ère des masses. Évidemment, Il s'agit là d'une figure particulière, puisque Shakespeare fait résonner plusieurs époques, celle du début de Rome, puisque nous sommes là au tout début de la République romaine, également la Rome des guerres civiles qui pointe sa propre époque, et puis puisque la mise en scène est d'aujourd'hui, eh bien évidemment les résonances fonctionnent avec notre propre époque, et c'est tout l'enjeu de ce contre-champ. Contre-champ puisque l'idée est de partir d'un grand texte, en l'occurrence Coriolan, et d'examiner des résonances avec la situation actuelle. Il y a eu, et je sais que certains d'entre vous étaient déjà présents, deux journées. La première sur le pire régime, avec notamment Étienne Balibar, Alexandre Adler, Jean-Pierre Vincent. Une deuxième journée sur la notion de représentation, où nous sommes interrogés sur la question à la fois politique et théâtrale, dans quelle mesure tout pouvoir est théâtral et dans quelle mesure la démocratie est particulièrement un régime de représentation. Et aujourd'hui même, eh bien, en deux temps, nous allons réfléchir à cette notion de l'héroïsme, et en particulier, qu'est-ce que l'héroïsme de manière générale et que peut devenir l'héroïsme, que peut-il rester de l'héroïsme dans une époque démocratique et à l'ère des masses. Pour ce faire, tout d'abord, je tiens à remercier rapidement le Théâtre des Amandiers qui nous accueille aujourd'hui. Nous sommes ici dans le décor de la douleur, texte de Marguerite Duras, mis en scène par Patrice Chéreau avec Dominique Blanc, et je les remercie de nous avoir laissé le plateau dans ce décor qui a été un peu mis à l'écart. Également nos autres partenaires qui sont l'Université de Chicago, la Cité Internationale, Sciences Po, et puis évidemment cet événement est organisé par le Théâtre National Populaire avec le spectacle mis en scène par Christian Scaretti. Donc maintenant, à propos justement de Christian Scaretti, eh bien, nous allons accueillir nos trois intervenants de la première partie pour réfléchir à cette notion de l'héroïsme. Alors le théâtre est un lieu de surprise, nous en avons des exemples fréquents et même récents, il y a parfois des accidents, des remplacements. Eh bien, c'est le cas pour aujourd'hui. Jusqu'à présent, tout s'était bien passé, mais aujourd'hui, nous avons eu deux désistements de dernière minute. Jean-Michel Desprats, qui devait venir, a eu un contretemps majeur, donc il ne peut être là. Donc, Christian Scaretti a accepté, au milieu d'un emploi du temps assez délirant, de 1000 répétitions, de venir, donc il est là. Et puis Camille Dumoulier, philosophe, a lui aussi eu un problème. Et donc, c'est Marc Goldberg, qui est à la fois traducteur, philosophe et metteur en scène, qui le remplace au pied levé. Mais cela dit, nous serons toujours trois. Voilà, la Sainte Trinité sera réunie. Et donc, je vais appeler nos trois intervenants, Christian Scaretti, Marc Goldberg et Jean Gilibert, que je vais présenter dans un instant. Bien. Je vais présenter très rapidement les trois intervenants. Jean Gilibert a une histoire de théâtre immense, puisqu'il a été l'un des pionniers du groupe de théâtre antique, un ami et collaborateur de Jean Villard. Il a dirigé Maria Cazares, Alain Cuny, travaillé avec Nils Arestrup, Philippe Léotard. Il a à son actif plus d'une centaine de mises en scène, de Shakespeare à Brecht, Échille, également des traductions, des textes de théâtre, textes autobiographiques, plus une œuvre théorique très conséquente, puisque, outre l'activité théâtrale considérable, Jean Gilibert a également une activité de praticien en psychanalyse et en psychiatrie. Et à ses côtés, Marc Goldberg, qui est philosophe de formation, metteur en scène, traducteur, auteur, qui a travaillé sur des textes qui vont du Moyen-Âge, dont il est traducteur, jusqu'à nos jours, récemment Cassavetes, et la problématique du héros traverse son travail depuis longtemps. Enfin, Christian Scaretti, on se demande si c'est la peine de le présenter, directeur du Théâtre National Populaire depuis 2002, qui a à son actif de très nombreuses mises en scène, dont Coriolan, que vous pouvez voir en ce moment même, dernièrement, le désormais mythique par-dessus bord au Théâtre National de la Colline, Mère Courage, Père de Strindberg, etc., et qui réfléchit sur la notion d'un théâtre populaire en France. avec une activité bien connue. Alors, avec ces trois intervenants, nous allons tenter de réfléchir à cette notion même d'héroïsme à partir de Coriolan, mais de manière plus générale à travers l'histoire, en examinant également ce qu'il peut en rester aujourd'hui, avant, dans la deuxième partie de cet après-midi, d'accueillir Alain Badiou pour réfléchir sur la dégénérescence et la régénérescence de l'héroïsme. Alors, la première question que je pose à nos trois intervenants, c'est qu'est-ce que l'héroïsme? Quelles sont les différentes formes d'héroïsme? Et on peut peut-être commencer, Marc Goldberg, par se demander ce qu'est l'héroïsme en particulier dans Coriolan.
Oui, alors, dans Coriolan, à mon avis, il y a vraiment deux niveaux d'analyse qui sont deux niveaux absolument essentiels pour la notion d'héroïsme et qui sont conjoints. Comme souvent chez Shakespeare, il y a plusieurs histoires, si on veut, plusieurs thèmes qui sont abordés parallèlement. Et j'ai envie de dire qu'il y a le thème politique au niveau collectif et un autre niveau d'analyse qui est au niveau du personnage, au niveau individuel. Au niveau politique, en un sens, l'histoire de Coriolan, pour moi, c'est l'histoire d'un échec. C'est-à-dire que on a un personnage qui a toutes les qualités pour devenir un héros. Il a la noblesse, il a le courage, il a le panache, il accomplit des actions héroïques, c'est ce qu'on a vu très clairement dans le premier extrait. Il a tout pour devenir un grand héros de Rome. Mais, et c'est le nœud de la première partie de la pièce, il refuse absolument tout le processus d'appropriation de son destin par la collectivité. Et là, je crois qu'il y a quelque chose que Shakespeare nous dit qui est absolument essentiel sur ce que c'est qu'un héros, c'est qu'il n'y a pas de héros objectif. Aucun héros ne résiste à une analyse critique de son action. S'il y a un héros, c'est parce que son destin a été repris par une collectivité. On le voit très clairement au Moyen-Âge avec les chansons de geste. La chanson de geste, qu'est-ce que c'est? C'est la collectivité qui, d'abord dans l'oralité, puis dans l'écrit, reprend l'histoire et transforme des événements historiques en événements légendaires. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fusion entre la personne et le personnage. Mais au fond, un héros, c'est un personnage. Et Coriolan refuse absolument tous les rituels par lesquels la cité va s'approprier son action. On le voit très clairement dans le deuxième extrait qui était montré. Ménénius se veut toujours le chantre des actions de Coriolan. Coriolan refuse. Et il le refuse à plusieurs reprises. Il y a ce très beau passage dans le cinquième acte où il se retrouve dans le camp des Volsces et où Ménénius dit qu'il tenait en gros la chronique des exploits et qu'il les exagérait, il le reconnaît lui-même, à quoi Coriolan répond au bout d'un moment que « he godded me », il me transformait en Dieu. Et c'est précisément ce que Coriolan refuse. Et refusant ce processus d'appropriation par la collectivité, refusant aussi de montrer ses blessures, tout ce qu'il juge humiliant, il ne deviendra pas le héros de Rome. En fait, au fond, et il y a un mot qui revient sans cesse dans la pièce, c'est pride, l'idée d'orgueil. C'est que Coriolan a toutes les qualités pour devenir un héros, mais il a un énorme défaut qui va tout ruiner, c'est cet orgueil. Il a un orgueil démesuré, c'est trop un individu pour devenir le héros d'une collectivité. Voilà. Bon, c'est ce qui nous amènerait au second plan, mais je ne vais pas monopoliser la parole.
Si, termine ton analyse. Bon,
donc ça, c'était, disons, sur le plan collectif, trop d'orgueil ne permet pas à la collectivité de faire tout ce travail d'appropriation, et donc il ne devient pas un héros, et ça va aller loin, parce qu'on pourrait même interpréter toute la trahison de Coriolan comme la conséquence logique de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que comment faire pour être certain qu'il ne sera pas manipulé, que son destin ne sera pas repris par la collectivité? En devenant traître. En devenant traître, en devenant l'anti-héros absolu, il empêche, en un sens, les historiens, les tribuns du peuple, les sénateurs, de faire de son histoire ce que lui n'a pas choisi. Il se met, de ce point de vue-là, au-dessus, radicalement, de la collectivité. Et en ce sens-là, justement, ça rejoint un peu, pour moi, le deuxième point de l'analyse, c'est-à-dire l'analyse au niveau individuel. Coriolan est un héros shakespearien exemplaire. C'est peut-être le plus abouti de ce point de vue-là de tous les héros de Shakespeare. Pour ça, je pense au très beau texte de Hegel dans l'esthétique, sur le héros shakespearien. Ce que Hegel ne parle pas explicitement de Coriolan, il développe une belle page sur Macbeth, il mentionne Othello, il mentionne Richard III. Ce qu'il nous dit du héros shakespearien, c'est que c'est un caractère à l'état de nature. Il nous dit, là je le cite, qu'il est conduit par l'impulsion violente d'une passion personnelle. Il insiste énormément sur cette idée d'impulsion et de passion personnelle. C'est-à-dire que le héros shakespearien, en général, donc pour Hegel, n'a pas d'idée universelle, n'a pas de motif rationnel, ne réfléchit pas, il n'a pas de sentiment religieux, il n'a pas de sentiment moral. Il agit d'une façon radicalement individuelle et sous sa propre impulsion. C'est la personnalité, la subjectivité qui est portée au plus haut point, l'indépendance de caractère à son plus haut degré, dit Hegel, alors, qui parle d'énergie d'opiniâtreté. Et c'est cela, cette énergie radicale, cette indépendance radicale qui nous fait admirer les personnages de Shakespeare et les traiter comme des héros, notez bien, même lorsqu'il s'agit d'un anti-héros absolu comme Richard III. Richard III, c'est un monstre. Et pourtant, il a une dimension héroïque qui soulève l'admiration. C'est la même admiration qui est présente face à Coriolan, qui pourtant est un traître. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce sont des personnages qui s'élèvent au-dessus des valeurs morales, dans le vocabulaire du 19e siècle suivant de Nietzsche, ça serait exactement ce qu'il considère être un surhomme, un créateur de valeurs, ou bien quelqu'un qui, en tout cas, échappe totalement au modèle des valeurs convenues. Et donc, de ce point de vue-là, Coriolan est un héros absolu. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, je pense qu'on y reviendra souvent, il y a tout un problème dans l'articulation du héros abstrait, si on veut, du héros au niveau de l'individu et de ce que c'est qu'un héros dans une collectivité, en particulier avec toute la problématique du héros national qui a tellement marqué le 19e siècle et le début du 20e siècle. Voilà.
Merci Marc. Cette notion d'absolu et ce mélange, on le trouve effectivement systématiquement chez Shakespeare, où le dramaturge nous force en effet à l'admiration. Malgré les crimes de Richard III, on ne peut s'empêcher d'entrer en connivence avec lui, ou en tout cas, ne serait-ce qu'au début de la pièce, au premier acte, lorsqu'il déploie ses plans pour parvenir au pouvoir. Donc, le mot absolu est d'ailleurs prononcé par la mère de Coriolan, qui dit « vous êtes trop absolu, vous êtes trop entier », et comme si ce héros n'avait pas sa place, ne pouvait pas participer à cette communauté. Et ce que tu dis du rapport entre héros et personnage est évidemment très, très important. C'est comme si, étant tout entier dans l'entièreté de sa passion, de son caractère, au sens où Orson Welles parle de caractère, par exemple, en disant c'est un personnage entier, il se refusait à jouer un rôle autre que le sien. Et ce rôle qui serait par exemple un rôle politique, dans les deux sens du terme, à la fois théâtral et de rôle d'action, il ne peut pas rentrer dedans. Il est trop grand, il est trop grand pour lui. Alors, tu parlais du 19e siècle et de Nietzsche, et du rapport entre héros et anti-héros, de la question de la trahison, du dépassement des valeurs, du renversement de la morale, en évoquant Nietzsche. On peut à cet égard demander à Jean Gilibert, qui a notamment mis en scène Vautrin, comment pour lui s'agence ce mélange d'héroïsme et d'anti-héroïsme et ce renversement des valeurs, par exemple, en écho à Coriolan, avec un autre personnage monstrueux qui est Vautrin, archétypal du 19e siècle.
Oui, je crains de ne pas être à la hauteur de la situation devant Coriolan. Je connais mal la pièce, je l'ai lue, mais j'attends de la voir ce soir. Ce que j'en ai vu m'excite beaucoup déjà. Alors, je crois quand même qu'il faut faire une différence entre le héros littéraire, qu'il soit théâtral, romanesque, et le héros politique, le héros social. Il y a quand même là une marge beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine. Comment dire ? L'art théâtral, entre autres, mais tout art, c'est de représenter en premier lieu le monde, ensuite de se représenter lui-même comme art, et enfin, il y a un temps de synthèse qui est à la fois la conception du monde et la conception de l'art. Nul mieux que Shakespeare n'a représenté ces valeurs. Alors, que Coriolan est une vérité historique, je n'en doute pas, mais ce qui m'intéresse pour moi et ce dont je peux parler, c'est le héros théâtral et le héros littéraire dont je vais parler, qui est à savoir Vautrin, parce que je le connais quelque peu. Mais quand même, quelque chose m'est apparu dans la lecture que j'ai faite il y a quelques jours du Coriolan de Shakespeare. Il semble osciller entre le robot et le sauveur. Et il n'est ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, mais artistiquement, lyriquement, il va de l'un à l'autre. Les deux notions que j'aimerais dégager, avant de parler de Vautrin directement, ces deux notions qui sont l'une l'engendrement et l'autre, né de lui-même, enfin... L'engendrement et le vide, je cherchais le vide intérieur qui me paraît très nécessaire. Je ne veux pas parler en tant que psychanalyste pour la première raison, je me suis toujours refusé en tant que psy à intégrer le domaine de la psychanalyse à l'art, presque toujours, et ce soir j'adhérerai à cette assertion que j'ai eue très jeune. Alors, bon, bien sûr, on ne peut pas ne pas penser pour nous à la Révolution et aux héros de la Révolution, où le peuple a été le héros. On chantait « La République nous appelle ». Enfin bon, le héros, c'était le peuple, qui est devenu, dans Shakespeare, le peuple qui devient la plèbe, très vite. Ce qui n'est pas la même notion, quand même. Alors, il se trouve que j'ai pu lire rapidement le Coriolan d'Alexandre Hardy et de Tamerlan de Marlowe, le Coriolan d'Hardy, mais le Tamerlan de Marlowe, de Marlowe, pardon, où il y a un hymne à la puissance absolue, peut-être sans grand génie, c'est le cas de le dire, par rapport au génie de Shakespeare. Alors j'en viens tout de suite à ce pourquoi j'ai pensé être mobilisé par la notion de héros, un héros littéraire et un contre-héros en même temps, qui est le Vautrin de Balzac. Tout le monde connaît, bien sûr, l'aventure, c'est où le bagnard devient un héros. Déjà, Victor Hugo avait, avec Les Misérables, tenté de montrer l'héroïsme de Jean Valjean à travers son grand roman. Valjean, qui a été condamné au bagne pour une peccadille, le vol d'un chandelier, enfin bon. Et tout le roman, qui est un merveilleux roman, mais qui se situe d'une façon très morale sur la mainmise de la société sur un héros qu'elle culpabilise alors qu'il n'a pas fait grand-chose de répréhensible. Balzac, que je préfère à Hugo, je dois le dire, Balzac, lui, va beaucoup plus loin. Il choisit le bagnard, en effet. Le bagnard, qui au départ s'appelle Jacques Collin, qui a commis un ensemble de crimes et qui ne va sans cesse permuter dans toutes les présentations. Il va être le bagnard, Jacques Collin, ensuite un bon bourgeois à la pension Vauquer dans Le Cousin Ponce, un bon bourgeois, il s'appellera Vautrin, puis ensuite, suite à un crime qu'il a commis en Espagne sur l'abbé Carlos Herrera, il deviendra l'abbé Carlos Herrera lui-même, et dans La splendeur et misère des courtisans, il agira en tant qu'abbé Carlos Herrera. Chose curieuse, et c'est pourquoi la notion d'engendrement me paraît très importante, y compris dans Coriolan, puisqu'on ne voit pas son père, si j'ose dire, dans Vautrin, alors que Balzac ne cesse de lutter avec force, violence, avec l'État civil, puisqu'il veut la concurrencer, Vautrin, je l'appelle Vautrin, puisqu'on l'appelle comme ça, Vautrin n'a pas de parents. On ne sait pas de qui ni de quoi il est né. À un moment, Balzac dit, il est né de Jean-Jacques Rousseau, mais le Jean-Jacques Rousseau, qui est un herboriste, il est né de la Révolution. C'est tout ce qu'on sait. Pas de parents, on ne connaît pas. Et son rôle va être, en raison de sa disposition bisexuelle, c'est le cas de le dire, comme on dit maintenant, de s'intéresser aux jeunes gens très fortement. On sait qu'au bagne, les petits jeunes gens, il aimait bien. Et de s'intéresser au fameux Lucien de Rubempré, d'accord. Et il va dire « je suis père, je suis mère, je suis fou ». Cette notion de compacité. Je cite le texte de Balzac. Il est père, il est mère, il est fou. Comme si c'était la folie de son ambition héroïque était une résultante d'être à la fois père et mère. Alors, bien entendu, Balzac ne cesse, c'est écrit au moment de la Restauration, hein, Balzac ne cesse d'évoquer et la Révolution, pour Vautrin, et Napoléon, bien entendu, enfin Bonaparte, puis Napoléon après le Directoire, Napoléon, bien entendu, qui reste le grand héros historique, et on sent très bien que Vautrin-Balzac est hanté par l'image de Napoléon. La Révolution ayant apporté une liberté libérale de la volonté générale. Or, Vautrin, c'est sa propre volonté, de sa propre volonté. Il a tué l'abbé Carlos Herrera. Il est devenu, donc, après le bourgeois, etc., le personnage reparaissant, cher à l'écriture de Balzac. Tous les personnages, les grands personnages de Balzac sont des personnages reparaissants, selon une technique romanesque. Et il, sous l'aspect d'un curé, il va séduire et il va, dans le monde, arriver à ce qu'il voulait. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il veut, ce personnage de Vautrin ? Il va obéir à ce qu'on pourrait appeler, et on peut me critiquer sur l'expression allemande que je vais prendre, le Führerprinzip, qui donnera, bien entendu, un héros, le héros du mal que fut Hitler. On va l'appeler, ce Vautrin, on va l'appeler Trompe-la-Mort. Il s'est appelé toujours Trompe-la-Mort, car à chaque fois qu'il risque sa vie, il trompe la mort. Alors, il finira bien sûr directeur de la Sûreté, alias Vidocq, préfet de police. Balzac a utilisé l'histoire de Vidocq. Alors, il y a là donc une notion d'engendrement qui me paraît capitale, à savoir que Vautrin n'est pas engendré. L'engendrement n'est pas du même ordre que la naissance sexuelle. Et je vais citer Shakespeare dans Macbeth. Macbeth qui commet tous les crimes que l'on connaît, tyrannique, qui se veut héros, a une seule peur qu'il exprime très vite, c'est d'être tué par quelqu'un qui ne serait pas né d'une femme. C'est le texte exact. Et en effet, ce personnage existe, c'est Macduff, qui, à la fin de la pièce, va tuer Macbeth, en lui apprenant qu'il n'est pas né d'une femme. À savoir, Shakespeare quand même n'est pas un grec, il dit, oui, en effet, ma mère a accouché, le maire de Macduff a accouché prématurément, d'accord. Mais ça fonctionne comme une valeur mythologique, il n'est pas né d'une femme. Macbeth, la seule peur qu'a le tyran Macbeth, c'est de rencontrer cet homme qui n'est pas né d'une femme. Alors, l'engendrement n'a rien à voir avec la naissance sexuelle de la parturition de la mère, de la femme. Athéna est née de la tête de Zeus. Dionysos est né, comme on dit vulgairement, de la cuisse de Jupiter. Bien sûr, le mot grec l'a romanisé, Zeus romanisé. Mais l'engendrement de nos jours est à nos portes. Le clone va exister, et le clone humain peut très bien exister s'il n'y avait pas, si j'ose dire, des lois qui l'illégitiment. Mais le clone, ça existe. C'est l'engendrement et ce n'est pas une naissance sexuelle. Dans l'histoire juive, naissance sexuelle et engendrement sont liés très étroitement. Dans le christianisme, Jésus n'est pas créé, il est engendré. C'est devenu un dogme de l'Église. Il est engendré. La notion d'engendrement est capitale. Dans Shakespeare, elle est là, prégnante d'une façon prodigieuse, lyrique, poétique, essentiellement, bien sûr. Donc, Vautrin, pour en revenir à lui, il est engendré, on ne sait pas par qui, mais par l'auteur, par Balzac, c'est un héros littéraire, et il est engendré par une notion qui est, si l'on veut, mythique, enfin bon, où la Révolution et Napoléon jouent un rôle considérable. Balzac le dit comme tel. Alors, c'est donc sous la forme du curé, de l'abbé Carlos Herrera, qu'il a tué, dont il a pris la dépouille, à savoir la soutane, qu'il a cette fameuse rencontre qui a hanté tous les lettres après Balzac, Proust le premier, la rencontre à la sortie d'Angoulême. Lucien de Rubempré est un petit jeune homme, très beau, très androgyne, ce qui est important. ayant les qualités masculines et féminines conjuguées dans son physique, un poète, mais bon, pas un grand poète, qui écrit des choses assez plutôt médiocres, qui est monté à Paris pour conquérir Paris, ça n'a pas réussi, il est rentré chez lui à Angoulême, et il sort d'Angoulême pour remonter à Paris, et il n'a qu'une idée, c'est se suicider, et il voit une mare, il pense qu'il va se suicider là, arrive à ce moment-là, évidemment, non pas le carrosse, mais la voiture dans laquelle se trouve l'abbé Carlos Herrera Vautrin. Et il voit ce jeune homme, évidemment, il jette son dévolu sur lui et se situe certainement le dialogue le plus extraordinaire de la littérature française où Vautrin séduit Lucien et lui dit « Mon petit, je t'emmène à Paris, je te fais connaître, t'épouses une aristocrate, tu deviens grand poète, etc. 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 » Mais ce qui est important, c'est que Vautrin agit par personne interposée, en réalisant son ambition, lui se cache, non seulement il s'est caché sous l'abbé Carlos Herrera, mais il se cache dans Paris, et il agit, il fait agir Lucien, qui épouse en effet une aristocrate, etc. Bon. Et Lucien de Rubempré réussit admirablement dans la société, et on voit un espèce de Napoléon, on pourrait dire, secret, qui ne dit pas... qui est méconnu, qui vit avec deux femmes qui s'appellent Asie et Europe, rien que ça, qui est une sœur, soi-disant sa sœur, mais ce n'est pas sa sœur, qui a été la maîtresse de Marat, enfin bon, un salmigondi invraisemblable où la Révolution et la figure de Napoléon sont là d'une présence occulte mais capitale, et notre Lucien de Rubempré, etc., gagne tous ses galons de personnages connus. Et Vautrin dit « Moi, je ne suis personne, je ne suis rien, il y a un vide en moi, je ne suis que Lucien de Rubempré. » Cette parole est une chose capitale, car j'ai remarqué qu'il y a toujours eu un vide considérable, un vide au sens métaphysique du mot, on pourrait dire, dans les personnages d'héroïsme. Je ne connais pas assez... Coriolan pour en parler, je n'ai lu que la pièce une fois, je ne m'avance pas sur ce terrain, mais le vide qui est une chose capitale, sans quoi il n'y a pas d'ambition, car quand même il faut parler aussi de l'ambition et du goût du pouvoir, bien entendu, il naît avec un sentiment de vide intérieur qui est que la littérature théâtrale ou romanesque a admirablement cerné. Et aussi paradoxal, Jean-Jacques Rousseau lui-même, qui pourtant n'avait pas l'intention, enfin on ne sait jamais, de devenir un héros, alors qu'il l'est devenu d'une certaine façon, à travers ce qu'il a écrit, qui est assez génial, et à travers la Révolution française, mais il avait exprimé admirablement ce sentiment de vide intérieur qui l'a fait d'ailleurs délirer, car la folie, je ne veux pas en parler trop. Bon, Jean-Jacques est devenu un parano incontestable avec son histoire, quand il a écrit cette chose magnifique, Rousseau, juge de Jean-Jacques. Et j'ai eu la chance de connaître Antonin Artaud quand il était à Ivry. Et après ses hospitalisations à Rodez pendant la guerre, ce que j'ai retenu d'Artaud, qui est pour moi une des figures capitales du théâtre, de mon enseignement personnel, un sentiment de vide intérieur qui était considérable, qui le faisait rejoindre par certains côtés la divinité et qui en même temps le faisait bafouer aussi bien le christianisme que n'importe quel dieu. Et ce sentiment de vide, Vautrin l'exprime en disant « Je ne suis pas moi, je suis Lucien ». Et devant ce vide intérieur, il n'a eu de cesse de le combler par un message occulte d'héroïsme qui a été l'action de Vautrin auprès de Lucien de Rubempré. Je suis père, je suis mère, je suis fou. Vautrin ne s'est jamais senti, vous allez me dire que c'est très banal ce que je dis, et c'est vrai, c'est très banal, ne s'est jamais senti l'égal de la société. Ce n'est pas un homme politique au sens, la politique, il dit à Lucien dans ces immenses discours à la sortie d'Angoulême, là, quand la voiture de Vautrin s'arrête, il lui dit « Non, non, la politique, tout ça, c'est rien, c'est pas ça qui compte. » Ce qui compte, c'est quelque chose qui est près, c'est un peu paradoxal ce que je dis, de la sainteté, sainteté laïque, bizarre. Héros et saints sont quelquefois conjugués. Et, comment dirais-je, de sauveur, enfin, le mot sauter, le mot sauveur. Je rappelle que, pour la tragédie grecque, par exemple, Édipe roi, en grec, se dit Édipus tyrannos, qui veut dire pied enflé le tyran, si on traduisait, c'est pied enflé le tyran, et qu'Édipe, en tant que héros, est le sauveur de Thèbes, puisqu'il guérit de la peste et tue, etc. Bon, enfin, les monstres qui hantent la ville, il devient le sauveur, mais en même temps, ce qu'il découvre, et c'est ce qui fait l'horreur tragique de la fin, c'est qu'il se découvre tyrannos, tyran, ça il le sait, puisque tyran qui prend le pouvoir, hein, ça veut dire qu'il ne répond pas à une lignée généalogique. Il est le tyran, Édipus tyrannos, il devient Édipus basileos, car en fin de compte, il est bien le fils de son père et de sa mère, il est bien le fils de Laios et de Jocaste. Jusqu'à un certain point, d'ailleurs, dans la pièce d'Édipe roi, Édipus tyrannos, où un moment, la mère et le fils en ont marre des dieux, d'Apollon, qui est un dieu du néant, ce que Nietzsche a oublié largement, à mon avis, qui est un dieu du néant, qui néantise l'être humain quand il n'obéit pas aux paroles oraculaires, ou du moins quand il les met de côté. Jocaste dit à Édipe, qui lui répond ceci, Apollon, tout ça, nous allons fonder une société fondée sur la rencontre de la mère et du fils. C'est ce que dit Jocaste et ce que acquiesce Édipe. Bien sûr, Édipe ira dans son héroïsme, ira jusqu'à dire à la fin de la pièce, quand il s'est crevé les yeux, il dit et revendique en le chantant, « Ce n'est pas Apollon qui a crevé mes yeux, c'est moi, Édipe, qui les ai crevés. » Alors, si j'ai donné tous ces signes, qui sont insuffisants, je m'en rends compte, à partir de Vautrin, c'est que Vautrin, à mon avis, le héros littéraire, je ne parle pas du héros social, je parle du héros littéraire, théâtral ou romanesque pour Balzac, il y a un seuil où il y a un vide total et absolu qui doit être rempli, donc conquête du socius, conquête de l'amour, pour Vautrin, c'est les jeunes gens, bien sûr, c'est évident. Le vide et la notion d'engendrement, à condition qu'il y ait une notion d'engendrement qui précède, à savoir mes parents, ça n'a aucune importance, c'est pas de ça que je suis né, et qui rappelle quand même, et là, ce sera ma dernière parole pour une fois de psy, c'est que je ne suis et je ne serai jamais là dans la scène où j'ai été engendré. C'est une notion de profonde amertume et de profond désarroi dans la pathologie de la folie certaine. Je ne serai jamais là dans la scène où j'ai été engendré. L'Édipe, la scène primitive, l'Ozène décrite par Freud, étant une toute petite chose à côté de la scène, car la scène primitive, tout le monde peut s'imaginer, un gosse l'imagine en voyant des chiens copuler dans la rue, tout le monde connaît, mais la scène de l'engendrement, je n'y serai jamais. Et devant cette nécessité qui se dédouble et de l'imitation de l'humain, je ne parle pas donc du divin, cette limitation de l'humain, l'angoisse et la naissance du héros peut avoir lieu. Voilà.
Merci Jean pour cette magnifique évocation qui fait résonner Œdipe, Coriolan, Vautrin, Macbeth. Et ce qui me semble essentiel dans votre propos, c'est cette double notion d'engendrement et de vide. Et le vide intérieur comme principe d'une démesure, d'une sorte de remplissement de soi par l'action, par la transgression, par le débordement, par la conquête, que ce soit des jeunes gens dans le cas de Vautrin ou de Ville dans le cas de Coriolan, ou la conquête même de la trahison ou du crime, pour dans le cas de Richard III, au point si on se demande, on peut se demander si ces héros ne sont pas à la quête de leur propre destruction, enfin si le néant qui les travaille dans cette espèce d'appétit et de dévoration du monde de l'autre ne se retourne pas contre lui-même et si le héros ne cherche pas finalement sa propre destruction. En tout cas, dans le cas de Coriolan ou dans le cas de Richard III, on se le demande. Et quand on voit l'insistance avec laquelle Œdipe mène son enquête en sachant tout en ne sachant pas de quoi il retourne, on peut se demander s'il ne vise pas d'une certaine manière sa propre fin, ce qui est une manière de revenir à cette origine énigmatique et de l'annuler d'une certaine manière. Et il me semble que aussi, sur cette notion d'engendrement, on a un écho absolument évident dans Coriolan qui dit « Je suis comme un homme qui voudrait être l'auteur de lui-même et qui se refuse à cette filiation impossible et qui refuse cette mère qui ne lui a pas laissé place. » D'ailleurs, il n'a en effet pas de père, comme vous dites. Je peux peut-être demander à Christian Spiaretti, à cet égard, comment dans son travail, notamment par rapport à Coriolan, ces enjeux de vide, d'engendrement ou de refus de l'engendrement, cette question de l'absence de nom également de Coriolan a constitué une pierre de touche du travail.